Théologie naturelle, 6 janvier 1984, Père Philippe Saint-Joseph.
Puisqu'en Dieu essaie et s'identifie à essentia, pourquoi continuons-nous de dire qu'il y a une essence? N'est-il pas le seul à être ainsi? Oui, on continue à cause de notre langage, et que nous savons très bien que nous n'avons pas d'intuition de Dieu, et que nous le saisissons toujours selon notre modalité de saisir, et donc nous avons deux grands axes pour saisir, le point de vue de la détermination et le point de vue de l'acte. C'est à cause de ça. Si nous avions l'intuition de Dieu, on serait dans le silence. Quand on serait dans la vision béatifique, on serait dans le silence. On continue de bavarder scientifiquement et théologiquement parce que nous n'avons pas l'intuition de Dieu. Alors nous tournons autour, vous savez, comme les oiseaux de nuit en face de la lumière. Alors il fait beaucoup de bruit, énormément de bruit, ça tourne autour. Et en fond, le théologien tourne autour. Il doit accepter d'être comme ça. Il est saisi par cette lumière qui dépasse et qui prend tout. La contemplation métaphysique de la simplicité n'implique pas la saisie d'une nouvelle intelligibilité. Donc, pas de nouveau concept, mais un nouveau jugement. Toutefois, le nouveau jugement n'implique-t-il pas la formation d'une certaine similitude intentionnelle de cette simplicité qui permet le toucher ? Je vois un peu ce qu'il veut dire. Il n'y a pas saisie d'une nouvelle forme, mais n'y a-t-il pas une nouvelle conception? Cette conception est-elle toute relativisée par le jugement qui regarde la réalité? La réalité, Dieu. N'est-ce pas la voie négative qui permet cette nouvelle conception et fait apparaître l'acte d'une façon absolue, cette nouvelle manière d'être propre à l'être premier serait-elle l'éminence? Oui, je ne vais pas traiter ça ici. Celui qui a dit là pourra me demander des petites explications dans la mesure où c'est possible. Parce que je ne veux pas entrer, ça va être trop complexe, trop critique pour essayer d'entrer. Je crois qu'il vaut mieux continuer. Alors, nous étions donc dans la simplicité pour essayer de comprendre comment en Dieu, le point de vue de l'essence et de l'existence sont identiques. En Dieu, l'essai s'identifie à son essence. Alors, nous avions vu déjà, mais j'y reviens, les deux objections qui me semblent intéressantes à bien être précisées. Donc je reprends ce que nous avions déjà vu, puis nous passerons à l'article suivant. Mais comme l'article 4 est un sommet de cette question sur la simplicité, c'est pas mauvais de s'y arrêter un peu. Une telle affirmation semblerait entraîner une grave erreur, car si l'essence de Dieu est identique à son essai, il s'ensuit qu'à l'être même, en lui, rien ne s'ajoute à titre d'éléments déterminateurs. Or, l'essai ainsi dégagé de toute détermination, c'est l'être en général qu'on attribue à tout ce qui existe. Dieu existe, la vache existe, le chat existe, j'existe. Donc, c'est l'attribut le plus général qu'il soit, le plus universel qu'il soit. Donc, celui qui est le plus loin de toute détermination. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Ceci est. Nous trouvons ce que nous avions vu au point de vue métaphysique. C'est pour ça que c'est intéressant à voir. Ce qui vous montre que tout l'effort que nous faisons au point de vue métaphysique nous permet de comprendre saint Thomas. S'il n'y a pas cet effort métaphysique, on ne comprend rien du tout à saint Thomas. Alors, il faut comprendre la distance qui existe entre ceci et Il y a une identification. Ceci est. C'est évident. Ceci est et relatif à ceci. Mais il y a tout un abîme entre les deux. Et n'implique aucune détermination. Puisque le ceci peut être là-bas, peut être le chat, peut être moi. En point de vue théologique, peut être Dieu. Et le cuménisme extraordinaire que fait ça. Je mets Dieu, et c'est ça qui explique l'opposition Dieu sans l'être de Marion. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce problème-là qui touche ici. Et c'est ça qui est important à saisir. C'est que, et s'il signifie quelque chose, hein, s'il signifie quelque chose, est-ce que et signifie quelque chose? Pour la philosophie analytique d'aujourd'hui, ça ne signifie rien. C'est pour ça que je le dis. Dieu sans être. Parce que ça ne signifie rien. Et ne signifie rien. Pourquoi et ne signifie rien? Parce qu'il y a un a priori philosophique, je dis bien un a priori philosophique, qui dépend de Kant et qui dépend de Descartes. On ne remonte pas au-delà de Kant et Descartes. Il y a un a priori philosophique qui consiste à dire que toute signification repose sur une forme. Toute signification se ramène à la qualité. Donc, toute la signification est de l'ordre de la création. En dehors de la création, il n'y a plus aucune signification. C'est pour ça qu'en philosophie analytique, on veut toujours définir. Or, tout ne se définit pas. Le vieil Aristote avait déjà dit ça. Si on voulait tout définir, c'est la destruction de la définition. Tout ne se définit pas. Il y a quelque chose qui est au-delà de la définition. La définition est au niveau des catégories. Les catégories donnent la table des choses définissables. Mais il y a quelque chose de plus que les catégories. Il y a quelque chose qui va plus loin que les catégories. La définition, qu'est-ce que c'est? La définition est une opération logique. Ah! C'est de la logique définie. C'est de la logique. C'est pas très intelligent. Mais c'est ça au dictionnaire. Le dictionnaire définit. Définissez ça. Très très bien. Je veux bien définir. C'est les catégories. C'est très important. Je ne veux pas du tout supprimer la définition. Hein. C'est très très important la définition. Mais c'est quelque chose de logique. C'est une opération élémentaire de l'intelligence. Élémentaire. Le gosse veut qu'on définisse. Et quand le philosophe se ramène uniquement à la définition, ça prouve que la philosophie est revenue au berceau. Tout simplement, c'est le signe. La philosophie revient au berceau, parce que le gosse veut définir. Qu'est-ce que c'est? Locomotive. Surtout quand on voit la PG, locomotive, parce que la locomotive est absorbée par tout le reste, c'est extraordinaire par ça. Alors, locomotive, qu'est-ce que ça veut dire? Définir, faut définir. La définition est au niveau des catégories. La définition exprime une signification quantitative. C'est la signification quantitative, la quantité. Les catégories sont au niveau des diverses quantités. Bon, si toute la signification est identique au problème de la quantité, est et est en dehors de ceci. Donc, il n'a pas de signification. Comme c'est simple. C'est aussi gros que ça, la philosophie analytique. C'est aussi gros que ça. C'est de dire que toute signification se ramène à l'appréhension et à la quantité. Et donc, définir, c'est toujours ramener à l'aspect quantitatif. C'est ne pas accepter que l'intelligence est capable de saisir la réalité. Et que la réalité est toujours individuelle, et donc elle est ineffable. Les anciens disaient ça. Pierre, en tant que pierre, il est ineffable. Je ne peux pas mettre Pierre dans une boîte en disant je le définis. Non. Une réalité individuelle est ineffable. Ça ne veut pas dire parce qu'elle est ineffable qu'elle n'a pas de signification. Ça veut dire que je ne peux pas la mesurer. Mais ne dire qu'elle n'a pas de signification, ça voudrait dire qu'elle soit irréductible à l'intelligence. Pas du tout, l'intelligence cherche à comprendre la réalité. L'intelligence ne cherche pas à comprendre les définitions. C'est pas comme ça que vous définissez l'intelligence. Définir l'intelligence uniquement à définir, la machine à la définition, c'est ramener l'intelligence à une opération. C'est une opération, définir, c'est une opération d'intelligence. Et l'intelligence va beaucoup plus loin que ça. L'intelligence cherche la réalité. Elle cherche à connaître la réalité existante. Elle cherche à connaître l'homme dans son existence. C'est ça que l'intelligence cherche. L'intelligence cherche à connaître le réel existant. Il est toujours individuel. La définition n'existe pas, sauf dans l'intelligence de celui qui définit. Donc, la définition est un être de raison. C'est un être de raison. Ça n'existe pas. Alors, ramener toute l'intelligibilité au domaine de la définition, vous voyez comme c'est appauvrir le domaine de l'intelligence. C'est ramener l'intelligence à la logique. Or, l'intelligence n'est pas uniquement la logique. La logique est un instrument. La logique est un organone. La logique, c'est quelque chose de très important, c'est bien évident. C'est quelque chose de très important, mais c'est un instrument. L'instrument est au service de quelque chose d'autre. La définition est au service de quelque chose d'autre. Elle est au service de quelque chose qui va plus loin. Et quand je formalise cette lettre, parce que c'est la forme abstraite, je formalise et en disant l'être. Est-ce que l'être a une signification? Ah, voilà la grosse question. Est-ce que l'être a une signification? Si vous dites non, au nom de quoi dites-vous que l'être n'a pas de signification? Parce que s'il n'y a pas de signification, pourquoi vous employez le mot être? Pourquoi vous dites ceci est? Ah, ça c'est du gros bon sens, ça n'a rien à voir avec la philosophie, ça n'a rien à voir avec la logique. Ah oui, très très bien. La logique ne regarde pas l'être. Parce que la logique ne peut pas étreindre l'être. La logique n'étreint que les quiddités, que les formes quiditatives. Elle ne peut pas. L'être échappe à la logique. Le bien échappe à la logique. L'amour échappe à la logique. Ah, l'amour, ça n'existe pas. Parce que ça échappe à la logique. Alors vous voyez cette chose très curieuse, on dit Dieu est amour, ah mais Dieu sans l'être. Exactement. Dire Dieu d'amour ou dire Dieu est, c'est accepter que Dieu est au-delà de toute signification. Dieu est au-delà de toute signification, quantitative. Il est et il est amour. C'est les deux grandes révélations. Alors si je supprime est, je ne vois pas pourquoi j'affirme l'amour, parce que l'amour, il existe. Ou bien là, il faut dire que l'amour n'existe pas. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux, dire que l'amour n'existe pas. Dire que l'amour, c'est au-delà de l'être. Ah oui, c'est au-delà de l'être, mais ça existe. Vous voyez, alors on est devant un a priori. Est-ce que l'être a une signification? Posez-vous la question. C'est ça la question. Est-ce que l'être a une signification? Oui. L'être a une signification, mais une signification qui est au-delà de toute signification quiditative. L'être n'est pas saisi par l'appréhension, l'être est saisi par un jugement. Alors voilà, j'ai là où je comprends que mon intelligence a deux manières de saisir le réel. Elle le saisit par l'appréhension, elle le saisit par le jugement. Et le jugement me met plus proche du réel, parce que le jugement n'est pas assimiler la réalité, mais c'est coller, adhérer à la réalité. Ça, à sa manière, dit très justement ça, très curieux, il est très présent. Il dit, je ne suis pas pour une philosophie de l'assimilation. Je ne suis pas pour une philosophie de la civilisation, c'est-à-dire une philosophie qui ramène tout à la définition. Connaître, c'est embrasser l'arbre. C'est se me jeter dessus. Oui, il comprend très bien. Connaître, ce n'est pas définir, c'est toucher. Connaître, c'est toucher, c'est reconnaître l'autre. L'autre qui existe au-delà de moi. C'est reconnaître la transcendance. Là, il a saisi quelque chose de très juste. Parce que la scolastique, il faut le reconnaître, la scolastique a ramené très très fort tout le problème de la connaissance à la théorie. Et c'est pour ça que Maritain parle de l'intuition de maître, parce qu'il met l'appréhension au-delà du jugement. Alors que si vous comprenez que l'appréhension est ordonnée au jugement, vous redécouvrirez le jugement d'existence. Ceci est, c'est le toucher de l'intelligence par rapport à la réalité. Et vous mettez un primat de l'être sur les catégories. Et vous comprenez que la signification des catégories dépend de quelque chose qui est plus fondamental que les catégories. Ce qui est. Et que la signification que vous atteignez par l'appréhension dépend de quelque chose de plus radical qui est la signification de l'être, mais qui n'est pas plus dictative. Et donc, vous mettez deux manières de regarder la signification. Une signification quantitative, un au-delà de la signification quantitative, qui est la signification de l'être, qui est une signification analogique. Si vous oubliez l'analogie, vous retombez dans la définition des catégories. C'est la signification analogique. Une signification analogique, c'est toujours une signification qui, justement, a quelque chose qui m'échappe. Je ne peux pas mesurer la signification de l'être. Alors, voyez bien, l'objection ici, hein, elle est très très jolie, c'est pour ça que c'est tout ça qui est impliqué dans l'objection. L'être, c'est l'au-delà de toutes les déterminations, quantitatives. Donc, c'est la chose la plus indéterminée qui soit. Si c'est la chose la plus indéterminée qu'il soit, je ne peux pas dire que c'est ça qui caractérise Dieu. Bien, vous devrez dire que Dieu, c'est la réalité la plus indéterminée qui soit. Donc, Dieu est matière. Dieu, c'est l'univers. Plus indéterminé. Oui, on retrouve l'Inde. C'est très curieux. La plus indéterminée qui soit. Parce que c'est la même chose. Hein. Ce qu'on retrouve en philosophie occidentale et en philosophie orientale, on retrouve exactement les mêmes problèmes. C'est normal, c'est le problème humain. Le problème de la signification, de la définition et du dépassement de la définition, c'est humain. Alors, si vous ramenez tout à la définition, si vous ramenez tout à la détermination quantitative, vous avez la tendance de dire, Dieu, c'est l'au-delà, le nirvana. L'indéterminé le plus absolu. Alors ici, l'objection consiste à dire « Je ne peux pas attribuer à Dieu ce qui est de plus indéterminé. » Réponse de saint Thomas. Ce qu'on dit de l'être indéterminé peut se comprendre de deux manières, en deux sens. Ou bien l'être en question ne se détermine point parce qu'il est de sa nature de n'être point déterminé. Comme il est de la nature de l'animal, sans raison d'être sans raison. Ou bien, il est indéterminé parce que, par sa nature, n'implique point, par elle-même, une détermination comme l'animal, pris en général, et sans raison, en ce sens qu'il n'est pas de sa nature d'avoir la raison. Mais il n'est pas non plus de sa nature de ne point l'avoir. Dans le premier cas, l'être indéterminé dont on parle est l'être divin. Dans le second cas, c'est l'être en général incommuni. Ça, c'est très important de bien voir cette distinction que fait saint Thomas. Ça, c'est difficile à saisir. Hein, c'est bien difficile à saisir. Donc, primo dietur modo, esse. Laissez l'être. sans aucune addition. C'est laissé diminuer. Et puis, le second mot, laisser, sans addition, c'est laisser comme. Il y a laisser comme on est et laisser diminuer. Vous voyez que c'est difficile à bien saisir. C'est les deux modes d'abstraction possibles par rapport à laisser. Je peux considérer laisser dans ce qu'il a de plus commun, sans aucune addition. Sans aucune addition, c'est le genre le plus général qui soit. Le genre comme animal. C'est pour ça qu'on fait allusion à animal. Alors, c'est l'aspect générique. C'est l'aspect, donc, le plus abstrait. L'aspect générique le plus abstrait. Je supprime toutes les déterminations. C'est ce que je disais là. Supprime toutes les déterminations. L'essai est au-delà de toutes les déterminations. Donc, il est l'aspect le plus générique qui soit. S'il est l'aspect le plus générique, c'est l'essai comme on est. Je ne peux pas attribuer cet essai à Dieu. Dieu n'est pas l'être le plus commun qui soit. L'être le plus commun qui soit. Vous voyez, alors ce serait, je ne sais pas, ce serait encore en dessous de l'animal. Ce serait l'être pris d'une façon générique qui fait que c'est l'essai le plus commun qui soit. Je peux comprendre l'essai au contraire sans détermination, comme étant ce qu'il y a de plus acte. Il est au-delà des déterminations parce qu'il est source de toutes les déterminations. S'il est source de toutes les déterminations, il est l'essai, ce qui est le plus en acte. En effet, l'essai, acte d'être. Alors, à ce moment-là, cet essai, sans aucune addition, c'est l'essai divin. C'est l'essai pris dans l'état pur. C'est l'essai comme acte pur. À ce moment-là, je pourrais dire, c'est l'acte pur. Alors, c'est l'essai divin. Vous voyez donc qu'il y a deux types d'abstraction, et c'est ça qui est très intéressant à voir. C'est ce que la scolastique appellera l'abstraction universelle et l'abstraction formelle. La Thomas dira ça aussi. L'abstraction universelle, l'abstraction formelle. L'abstraction universelle, je supprime toutes les déterminations et je les sais comment. Donc, j'ai l'aspect générique, le genre. L'analogue à l'image. Et puis, l'abstraction formelle, c'est de saisir au contraire ce qu'il y a d'au-delà de toutes les déterminations. L'essai est acte. Alors, cet acte, puisqu'il est l'essai est acte, si je saisis l'essai dans toute sa pureté d'acte, au-delà de toutes les déterminations qui contractent l'acte, j'ai laissé. Mais ça, vous ne le saisissez pas. Vous n'avez pas saisi. Mais vous voyez comment je peux parler d'un essai divin. L'essai divin, c'est tout simplement appliquer à Dieu ce qu'il y a de plus acte dans l'essai, en supprimant tout ce qui viendrait limiter cet essai. Donc il faut bien comprendre l'essai comme on est, essai divin. Et comprendre là les deux modes d'abstraction. Alors, nous allons voir maintenant la seconde question, la seconde objection. Ça va nous aider encore. D'ailleurs, n'avons-nous pas dit qu'au sujet de Dieu, on peut répondre à la question « Est-il ?» Dieu existe-t-il ? Mais non pas à la question « Qu'est-ce que c'est que Dieu ?» Donc c'est la fameuse question de l'ancit et du quid sit. Ça aussi, il faut comprendre. Hein. Ce sont des expressions consacrées. L'ancit et le quid sit. L'ancit, Dieu existe-t-il ? Le quid sit, qu'est-ce que c'est que Dieu ? En grec, vous voyez bien, c'est toujours plus intelligible, le qui est-il, c'est le qui est-il. deux interrogations que j'ai. Donc ça revient directement d'Aristote, hein, en passant par Boès. C'est Boès qui est le premier à traduire de cette manière-là. Puis à partir de Boès, on l'a répété. Vous voyez ? Alors c'est intéressant. C'est tout simplement les deux interrogations. Quand vous êtes dans le noir, vous ne voyez pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez une vague forme en brouillard. Est-ce que c'est le brouillard ou est-ce que s'il y a quelque chose derrière ? Autant possible, au mieux voir à distance, hein, que de se frotter le nez dessus. Mais au fond, est-ce que ça existe ? Y a-t-il là une réalité qui existe ? Qu'est-ce que c'est que cette réalité ? Toujours les deux interrogations. Ansi, quid sit ? Bon, alors vous voyez bien, l'interrogation ici porte de cette manière-là. D'ailleurs, avons-nous dit qu'au sujet de Dieu, on peut répondre à la question ansi, et on ne peut pas, et non pas à la question quid sit ? C'est donc qu'on doit distinguer en lui, d'une part, son essai, de l'autre part, ce qu'il est. C'est très très joli ça, hein? Très très joli. Vous acceptez au sujet de Dieu la distinction que tous les pères de l'Église ont acceptée. Ça c'est une question absolument universelle. Chez tous les pères de l'Église, vous voyez cette distinction de savoir l'intelligence humaine est capable de découvrir l'existé de Dieu. Et l'intelligence humaine est incapable de connaître ce qu'est Dieu. Donc, vous distinguez l'interrogation de ansi et de quid sit. Est-ce que Dieu existe ? Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Si vous acceptez cette distinction, ça prouve que vous reconnaissez en Dieu la distinction entre l'existence et l'essence. Puisque vous dites que vous pouvez affirmer qu'il existe et que vous ne pouvez pas saisir son essence. Parce qu'autrement, vous serez bien obligé de dire qu'en saisissant l'existé de Dieu, vous saisissez ce qu'il est, puisqu'il y a identification entre les deux. Très belle objection. Il faut bien saisir cette objection. Elle est très forte, elle est très intelligente. Je reprends pour que vous compreniez bien ça. Parce que c'est bien à travers tous les pères de l'Église. J'ai fait l'enquête et je vous affirme que c'est à travers tous les pères de l'Église. C'est très très curieux, c'est intéressant. Parce que ça montre là, on est en face d'une question qui a tourmenté tous les pères de l'Église. L'intelligence humaine est-elle capable d'affirmer que Dieu existe ? L'intelligence humaine est-elle capable de saisir ce qu'est Dieu ? À la première interrogation, on répond oui, à la seconde, on répond non. Bon, si vous faites une distinction au niveau d'une interrogation, vous devez donc faire une distinction au niveau de la réponse. Alors, réponse de saint Thomas. C'est toujours à ces moments-là qu'on saisit saint Thomas. Plus l'interrogation est intelligente, plus la réponse doit être intelligente. D'ailleurs, l'essai se dit de deux façons. Le théologien, il distingue toujours, hein? Toujours. L'essai se dit de deux manières. D'une manière pour signifier l'acte d'exister. D'autre part, pour marquer le lien d'une proposition, œuvre de l'âme, joignant ensemble un prédicat et un sujet. Regardez le latin de saint Thomas. Esse dupliciter dicitur, uno modo, significat actum essendi. Alio modo, significat compositionem propositionis. C'est très intéressant ça. C'est une distinction que du reste saint Thomas prend à Aristote. C'est une distinction qu'Aristote fait. L'essai peut se prendre comme l'acte d'être. J'existe. L'acte d'être. Ou l'essai peut se prendre comme la composition de la proposition, ce qu'on appelle la copule. Pierre est intelligent. Pierre est intelligent. Vous voyez, et, lit, Pierre est intelligent. Simplement la copule. Pierre est intelligent, on dit que et, n'est pas pris du tout comme acte d'être. Il est pris uniquement comme un petit métaxi. Ce qui fait le lien. Pot de colle. Je lis les deux. Donc au fond, et alors c'est très intéressant pour la philosophie analytique ça. Parce que dans la philosophie analytique, on respecte et comme copule, on voit que ça signifie. En réalité, quand je dis Pierre est intelligent, je mets tout l'accent sur Pierre et intelligent. Et c'est simplement parce que c'est correct. Pierre intelligent. Ça veut dire exactement la même chose que Pierre est intelligent. Pierre intelligent. Pierre est intelligent. Alors, et c'est la copule qui unit Pierre et intelligent. Alors, si et est employé uniquement comme copule au niveau logique, je comprends très bien qu'on arrive à dire « et » n'a pas de signification propre. Saint Thomas distingue « et » a deux significations. Ou c'est la copule, ou c'est l'acte d'être. Il ne faut pas que l'un supprime l'autre. Si l'on entend l'être de la première façon, c'est-à-dire comme acte d'être, l'être de Dieu nous est inconnu. Au même titre que son essence. Et l'argument pris de ce chef n'a donc pas de prise. Nous n'atteignons l'être de Dieu que dans le second sens, c'est-à-dire qu'ayant formé cette proposition « Dieu est », nous savons que cette proposition est vraie et nous le savons par les effets de Dieu ainsi qu'il a été dit. J'avais un étudiant au Saulchoir dans le temps qui avait fait sa thèse là-dessus. C'était très intéressant. Parce que voir ce que saint Thomas dit là, à première vue, vous voyez, si je prends un peu matériellement, saint Thomas a l'air de dire que quand j'affirme Dieu existe, hein, la réponse, est-ce qu'il existe? Donc, c'est uniquement une conclusion logique. Et je n'attends rien de mieux. Si vous prenez matériellement ce qui est dit là, ça vous aboutissez à ça. Et c'est ce qui explique hein, comment il y aura dans Thomisme tout un courant qui sera le courant occamien et qui dira justement que, de fait, le point de vue de la théologie n'atteint que la logique. La théologie, c'est un beau bavardage logique. Mais vous ne connaissez rien du tout de Dieu. Alors à ce moment-là, vous avez une théologie logique qui est complètement coupée de la contemplation. Vous avez d'une part un langage logique, une science logique, qui se ramène à la logique, c'est tout. Mais qui ne touche absolument rien de la réalité. Un beau bavardage. Vous voyez, c'est très intéressant ce petit passage, hein, parce que si vous le prenez un peu matériellement, vous aboutissez à ça. Alors, il faut toujours interpréter en fonction de tout un contexte. Qu'est-ce que saint Thomas veut dire là? Parce que c'est ça qui est intéressant à voir. Qu'est-ce que saint Thomas veut dire? Saint Thomas veut dire que ce que je saisis par l'interrogation « Dieu existe-t-il » ne me fait pas comprendre ce qu'est l'existence de Dieu. J'affirme seulement quelque chose qui existe et qui me dépasse complètement dans ses significations. C'est ça que ça veut dire. Donc quand j'affirme que Dieu existe, je ne saisis pas l'existé de Dieu. Parce que si je saisissais l'existé de Dieu, je saisissais son essence, c'est bien évident. Donc, dire que l'intelligence humaine peut affirmer que Dieu existe, ne veut pas dire que l'intelligence saisit l'existence de Dieu. Ça veut dire tout simplement que l'intelligence est capable d'affirmer qu'il existe une réalité qui m'échappe complètement. Et je peux dire qu'elle existe. Et je peux formuler en toute vérité, Dieu existe. Et quand cette proposition « Dieu existe », l'exister qui est affirmé m'échappe complètement dans sa signification. Donc, je suis ramené tout simplement à la proposition « Dieu existe » et dire qu'au fond, c'est uniquement la vérité de l'exister au niveau logique. C'est très juste, au point de vue de la compréhension. Mais pas au point de vue de la réalité. Oui, c'est assez subtil, mais c'est très intéressant. Alors c'est pour ça que ces deux réponses, hein, elles demandent d'être longuement méditées. Hein. La première, esse divinum, esse commune, ansi quidsit. L'ansi quidsit ferait que nous saisirions l'existé de Dieu en lui-même tel qu'il est, c'est impossible, je ne peux pas. Tandis que l'ansi me permet de dire en toute vérité, Dieu existe. Et quand je dis Dieu existe, je ne saisis pas l'existé de Dieu. Mais j'affirme qu'il y a une réalité qui me dépasse complètement. Et que l'existé de cette réalité, je ne la saisis pas qualitativement. Elle m'échappe complètement. Vous voyez, donc, c'est ça qui est très important. L'affirmation Dieu existe. Alors, autrement dit, c'est toujours ces deux aspects-là qu'il faut regarder. Le jugement d'existence, ceci est, Dieu est. Si est ne transcende pas le ceci, je ne peux pas affirmer que Dieu est. Si est transcende ceci, je peux analogiquement dire Dieu est. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, pression. Déjà l'heure avance. Hein. Alors c'est pour ça, la saturation intellectuelle. Si quand je dis dans le jugement d'existence, ceci est, si est, transcende ceci, il a une signification analogique. Je peux donc dire Dieu est. Mais la signification du ceci est et du Dieu existe, vous comprenez bien, n'a pas la même signification. Signification analogique. Logiquement, c'est la même. Logiquement, c'est la même. Métaphysiquement, c'est pas la même. Si au contraire, je dis que est ne transcende pas le ceci, je ne peux pas affirmer que Dieu est, parce que ça voudrait dire que Dieu est ceci. Ça arriverait à dire que Dieu est un étang. C'est bien la grosse artillerie de Heidegger. La grosse artillerie de Heidegger, quand on dit Dieu est un étang, mais non, Dieu n'est pas un étang. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire Dieu est. Parce qu'en disant que Dieu est, je veux dire que Dieu est un étang. Et voilà ce que Marion dit. Il dit exactement la même chose. Il répète en français. Mais il répète. Alors c'est la répétition. Alors ça veut dire tout simplement que quand je dis jugement d'existence ceci est immanent à ceci. Donc est se confond avec le ceci. Donc il est un étang. Le ceci est un étang. Mais est n'est pas un étang. Il est. Alors si est se ramène à ceci comme l'étang, je ne peux pas l'affirmer de Dieu. C'est évident que Dieu n'est pas un étang. Dieu n'est pas un ceci. Il est. Dieu n'est pas un ceci, c'est-à-dire qu'il n'a pas une essence distincte. Le ceci étant justement ce qui implique une distinction entre le point de vue de la détermination et le point de vue de l'essai. Alors réfléchissez le matin, quand vous avez une intelligence toute pure, toute limpide sur ce problème-là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, puisqu'en fond, c'est tout le problème. Et il est actuel, je vous dis. Si vous ne saisissez pas ça, vous ne pouvez pas répondre à Marion. Et vous acceptez cette affirmation, comme au fond, on l'a dit, hein, dans la bonne presse, on a dit, oh, c'est très bien ce bouquin, merveilleux. On ne voit pas qu'en disant ça, on détruit toute la théologie de l'Église. C'est affolant. On l'a détruit, parce que tous les pères de l'Église ont affirmé ça. Alors tous les pères de l'Église ont fait une erreur, une confusion. Il fallait attendre Heidegger pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'être et dire Dieu sans l'être. Alors il faut peut-être se dire qu'entre les pères de l'Église et Heidegger, il y a Occam. Et que Heidegger n'a pas dépassé Occam. Donc il est une petite tradition. Vous savez, tous les gens sont dans les traditions. Plus on nie la tradition, plus on est dedans. C'est un fait extraordinaire. Quand on l'accepte, on la dépasse. Le simple fait de l'accepter, c'est la dépasser. Tandis que la refuser, c'est être dedans. Alors c'est très curieux, vous voyez, vous avez deux grandes traditions, il faut regarder ça. Et je le mets exprès sur le tableau, je vois, en rouge, c'est mieux. Alors, deux traditions. Vous avez une tradition qui dépend des pères de l'Église. Cette tradition-là, tout le temps. Alors évidemment, il y a eu des petits arrêts entre deux. Il y a eu des petits arrêts entre deux. Le grand arrêt de cette tradition, c'est en 14e. Avant Luther, c'est bien évident. Avant Luther. Et c'est très important pour comprendre Luther. C'est le centenaire de Luther, c'est important de le souligner. Il y a Occam. Qu'est-ce qu'a fait Occam ? Occam a transformé complètement l'affirmation « ceci est hein ». Datum. C'est ce qu'il dit. Le datum. Mais c'est curieux, parce que le « es gibt » est le datum. Il est donné. Le jugement d'existence se ramène au « ceci ». Vous avez « ceci ». « Ceci est donné ». Eh bien oui, Dieu n'est pas un donné. Dieu n'est pas un donné. Si chaque fois que j'emploie le verbe être, je veux uniquement montrer un donné, un étant, Dieu n'est pas un donné, Dieu n'est pas un étant. Il est. C'est tout à fait différent. Mais ça, c'est la tradition d'un cadre. Alors vous voyez, vous avez une petite tradition. Jusqu'à nos jours, parce qu'un cadre continue jusqu'à nos jours. Mais avant un cadre, il faut remonter au-delà. Très intéressant de voir à quel moment il y a une confusion. Vous allez tout de suite être sensible. Parce que quand il s'agit de la métaphysique, on est moins sensible. Mais Occam a fait une autre confusion terrible entre l'autorité et le pouvoir. Là, on sent tout de suite. Hein. Occam a confondu autorité et pouvoir. Et à partir de là, le dictionnaire de théologie catholique n'a plus défini autorité. Alors, c'est la même chose pour le jugement d'existence. C'est très curieux. Ce serait très intéressant de voir le parallélisme entre les deux. Autorité, pouvoir, ceci est ramené à étant, à au donné. Alors, vous voyez, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est le donné. L'autorité, c'est le principe. L'autorité fait appel à la finalité. Le pouvoir ne fait pas appel à la finalité. Donc, c'est le donné. C'est exactement la même distinction. C'est extraordinaire de voir ça. Alors, on a une tradition, évidemment, une tradition occamienne. Et alors, Luther se situe dans l'opposition à la tradition occamienne. Mais il est resté dans le même genre. Il n'a pas été assez loin. Il est resté dans le même genre. Alors, la discussion s'est mise entre les deux. Et à partir de Luther, vous avez quelque chose de commun, puisque Luther dit, l'intelligence humaine est faussée, elle ne peut saisir que le datum. Donc, il retombe sur Occam. Et c'est dans ce sens-là que Luther et Occam vont ensemble avoir quelque chose de commun et vont retrouver Heidegger au terme. Heidegger, lui, qui pourtant a saisi beaucoup de choses, n'a pas su dépasser le datum. Il est ramené dans le jugement d'existence, le es gibt. Le jugement d'existence, c'est le donné. Donc le jugement d'existence ramène à l'étant. Donc vous voyez, c'est important hein, de saisir cet ad primum et ad secundum, parce que c'est là où on voit comment saint Thomas nous montre, avant Occam, le dépassement d'Occam, pour redécouvrir la signification profonde de ceci est, c'est-à-dire de l'être, l'essence.